Antoine Lee. Rendez-vous Place du Marché.
Bonjour à tous. Vendredi, vous étiez à Figeac avec Aurélie Sfez. Aujourd'hui, nos micro-nomades se sont posés dans l'Indre, dans la région du centre Val-de-Loire. Nous sommes ici à Argenton-sur-Creuse. Cette bourgade de 5000 habitants se trouve à 2h30 de train au sud de Paris. Ici, on considère que c'est la dernière ville tournée vers la capitale. Quelle est la frontière de la France rurale, de cette région parfois moquée par les citadins ? Argenton séduit par ses côtés pittoresques et paisibles. On a adoré se poser sous un immense sol pleureur et on s'est laissé bercer par le son de la rivière de la Creuse. Il nous a ensuite suffi de nous y promener quelques minutes pour comprendre pourquoi on l'appelle la Venise du Berry, avec ses maisons au bord de l'eau et son joli pont de pierre. Ce Berry si bien décrit dans les œuvres de George Sand. Ce matin, on est au marché d'Argenton, sous la halle. Il y a une trentaine de commerçants, il y a beaucoup de bouchers qui vendent des cailles, des pigeonneaux. Et il y a Cathy Aimedieu juste avec nous. Bonjour Cathy.
Bonjour.
Alors vous, votre spécialité, c'est le pain bio au levain.
Voilà, tout à fait.
Vous venez dans ce marché depuis combien de temps ?
Depuis le début, ça fait 20 ans que nous sommes installés. Et depuis 20 ans, j'ai une place sur le marché. Je commence à connaître bien les clients, je les ai depuis 20 ans.
D'ailleurs, il y a un monsieur qui est là, qui vient d'acheter son pain. Bonjour monsieur.
Oui, bonjour.
Quel est votre prénom ?
Philippe. Alors le pain se conserve 10 jours et Cathy est éternelle.
C'est vrai ça ? C'est quoi votre secret pour être immortel et éternel ?
Non, j'espère qu'il dit vrai.
Cathy Aimedieu, il y a une particularité sur ce marché, c'est qu'il n'a pas fermé durant le confinement. Comment ça se fait ça ?
Il faut dire qu'on a été bien aidés par la municipalité qui a organisé le marché. Donc nous étions quelques commerçants à s'être installés à l'extérieur pour espacer la clientèle. On est à la campagne, donc il y en a qui font jusqu'à 20-25 km pour venir au marché.
Et c'est vrai que c'est surprenant de voir autant de monde dans une petite bourgade comme Argenton-sur-Creuse. Que représente ce marché pour les habitants d'ici et des environs ?
C'est pas que pour venir faire les courses, c'est un lieu de rencontre. Les gens donc se retrouvent entre eux, viennent discuter. Et pareil avec les commerçants, c'est des liens qui se créent. Donc nous et moi, ils viennent chercher le pain. Mais comme l'a dit Philippe, ils viennent chercher autre chose. On vient discuter, on parle de tout. Et puis il y a des gens qui sont seuls et qui ont besoin de ce lien. C'est très important pour passer d'une semaine à l'autre, et c'est très important.
Cathy Aimedieu, j'aime beaucoup votre nom, Aimedieu, surtout quand on sait que les Berrichons sont très croyants et très superstitieux dans la religion catholique, mais aussi et surtout pour tout ce qui touche à la sorcellerie et à la magie. On verra tout à l'heure avec une ethnologue spécialiste de la question si on a affaire à des mythes ou à la réalité. Des habitants d'Argenton-sur-Creuse viendront aussi nous parler de leur attachement pour le Berry et comment ils se sont battus bec et ongles pour garder leur gare. Et on parlera également d'une histoire d'amitié incroyable entre un chef pâtissier et son apprenti sans papier. Mais avant, on écoute Silk Sonic avec Leave the Door Open, un choix de l'ami Chewbacca.
I'ma leave the door open, girl.
Vous écoutez France Inter, vous avez rendez-vous place du marché à Argenton-sur-Creuse, en centre Val-de-Loire. On a laissé notre amie Cathy Aimedieu vendre tranquillement ses délicieux pains bio au levain. On a fait quelques mètres pour se poser juste en face de l'entrée de la halle. Florence, la patronne du café Le Carnot, nous accueille sur sa terrasse et on reçoit Brigitte Lucas. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ethnologue, berrichonne et fière de l'être, c'est bien ça?
Ah ben complètement, je me suis intéressée à ma culture et à ces drôles de berrichons qui intriguent beaucoup les Parisiens, entre autres.
Et ben justement, on va en parler parce que, on le disait tout à l'heure, on est ici dans une région très croyante. À Argenton, il y a plusieurs églises. Impossible, par exemple, de passer à côté de la statue de la chapelle de la Bonne Dame, immense et dorée à leur fin. Elle domine les hauteurs du village. Mais ici, dans le Berry, on croit aussi beaucoup à d'autres formes de superstition. Les croyances pour tout ce qui est mystique ou magique sont encore vivaces ici. Le Berry passe toujours pour être le principal foyer de la sorcellerie française. Ici, c'est un sujet sérieux auquel vous avez consacré des années d'études, Brigitte Lucas. Vous n'aimez pas d'ailleurs cette image qu'on a donnée au Berry?
Disons que on nous fait passer un petit peu pour des arriérés. Quand je dis que je suis berrichonne, en général, on fait deux pas en arrière en disant tu es sorcière. Et je les rassure. Je pense qu'il y a plus de guérisseurs et de magnétiseurs et de rebouteux que de sorciers chez nous. Les sorciers sont plus au Père Lachaise à Paris, je vous assure.
Et globalement, les berrichons, ils le vivent comment? Est-ce qu'il y en a quand même qui s'en fichent ou sur qui ça glisse?
Ça agace beaucoup les berrichons, ça, qu'on les considère comme un pays de sorciers. Et les journalistes d'ici apprécient pas trop cette image que l'on a collée à nos baskets.
Alors, c'est vrai qu'on s'y perd un peu entre sorciers, guérisseurs, rebouteux. Aidez-nous à y voir un peu plus clair, Brigitte Lucas.
Alors moi, je me suis intéressée plus à la médecine populaire des campagnes. C'est valable pour toute la France, hein, la Bretagne du centre, le bocage normand. Et moi, je me suis attachée à regarder le paysage de bocage du Berry, qui n'a pas beaucoup changé depuis George Sand, en fait, depuis le 19e.
Mais qu'est-ce que vous appelez la médecine populaire?
Alors, la médecine populaire, elle est pragmatique, elle est empirique, et elle se différencie de la médecine que l'on apprend dans les universités, tout simplement. C'est-à-dire que on a appris des plantes, on a appris des dons que l'on se passe de génération en génération, du même sang, de la même famille, de mère en fille ou de mère en petite fille ou bien de grand-père à petit-fils.
Mais c'est ce qu'on appelle les guérisseurs?
Oui, qu'on appelle ici les penseux de secret.
Les penseux de secret?
Oui, c'est-à-dire qu'on pense, P-A-N-S-E,
du verbe penser, enfin...
Voilà, comme pansement.
Voilà. Hein.
Ça permet de réduire le mal. Et les guérisseurs, en général, ne guérissent que les maladies de peau. Eczéma, croûte de lait des enfants, zona. Et même nos médecins généralistes nous envoient vers les guérisseurs de plus en plus. Et moi, j'ai eu l'occasion d'avoir dans ma famille quelqu'un qui ne croyait pas du tout aux guérisseurs parce qu'il venait de Paris. Et il a eu un zona, il est allé voir le médecin généraliste de Châteauroux qui lui a dit « Mais monsieur, allez voir votre pharmacienne ou le charcutier, il va bien vous donner le nom d'une guérisseuse pour le zona ». Et c'est ce qu'on a fait. Il se trouve qu'en plus, notre pharmacien, ça, je ne l'invente pas, s'appelle Mage.
Ah oui.
Donc,
joli hasard.
Joli hasard. Donc,
qu'est-ce qui s'est passé pour ce monsieur alors qu'il y avait un zona?
Alors, on lui a donné, mais il y avait une multitude d'adresses de femmes qui guérissent le zona. Et ça marche très très bien.
Il a été guéri, ce monsieur?
Oui, il faut y aller tout de suite. Il ne faut pas attendre.
Que des femmes? Vous dites, il y a beaucoup de femmes, il n'y a pas d'hommes?
Il y a des hommes aussi, il y a des hommes aussi.
Mais c'est eux qu'on imagine être des sorciers aussi?
Alors, il y a un mélange des genres, parce qu'on dit que celui qui guérit peut faire le mal aussi.
Mais pour vous, ces guérisseurs ne sont pas des sorciers?
Non, il ne faut pas mélanger les genres. Et le sorcier n'est pas un sourcier non plus. Sourcier, c'est celui qui trouve l'eau par les baguettes de coudrier.
Brigitte Lucas, vous êtes ethnologue et vous avez consacré une thèse, un livre, un documentaire sur ce thème de cette médecine populaire, des guérisseurs, des rebouteux. Pourquoi vous êtes autant impliquée dans ce sujet?
Eh bien, parce que à l'âge de 6 ans, j'avais des grands-parents qui allaient voir le médecin, bien sûr, mais qui pratiquaient beaucoup les rebouteux. J'avais un grand-père qui avait souvent des sciatiques. Et il venait justement à Argenton-sur-Creuse voir une grande guérisseuse qui n'est plus de ce monde, qui s'appelait Madame Baudra.
Rappelez juste ce qu'est un rebouteux.
Alors un rebouteux, c'est celui qui remet les os bout à bout.
Avec des manipulations, une touche.
Avec des manipulations, j'allais dire que c'est l'ostéo primitif.
Ça ressemble un peu à ça.
Ouais.
Il intervient sur des êtres humains et sur des animaux aussi.
Complètement. Il s'occupe des chiens de chasse qui peuvent être blessés. Il s'occupe de remettre l'épaule d'une vache ou après un vélage difficile. Il s'occupe beaucoup des animaux et des hommes et des femmes.
Et pourquoi vous êtes autant impliqué dans ce sujet-là alors ?
Alors donc à 6 ans, j'accompagnais mes grands-parents qui venaient se faire soigner chez la rebouteuse et magnétiseuse d'Argenton et je jouais en attendant avec le fils de la rebouteuse. Et le fils de la rebouteuse avait curieusement un chapelet de pattes de taupe séchées autour du cou. Avouez que c'est peu courant. Et puis j'ai grandi, j'ai continué à fréquenter cette dame qui m'a dit « mais ça vous intéresse beaucoup, je vais vous montrer toutes les sources guérisseuses de l'Indre ». Ça a commencé comme ça. Et quand je me suis retrouvée en fac, j'ai dit, tiens, c'est intéressant, j'ai envie de travailler là-dessus.
Dans votre documentaire Le Berry des secrets, vous allez à la rencontre justement d'un de ces rebouteux, Stéphane Richard. On assiste à des scènes incroyables où il soigne un jeune homme et aussi des animaux par le toucher. Quelle est l'histoire de cet homme ? Est-ce qu'il s'est confié facilement à votre caméra ?
Oui, parce que si j'ai fait ethnologie dans le Berry, c'est parce que je suis originaire d'ici et qu'il faut avoir la confiance des gens. On dit ici qu'on est des taiseux et des méfiants. C'est un petit peu vrai. Et comme je suis d'ici et que j'avais depuis 20 ans pratiqué tous ces guérisseurs et ces rebouteux, ils avaient relativement confiance en sachant que je ne déformerais pas leurs propos.
Et quel est son quotidien, cet homme ? C'est quelqu'un qui est très sollicité, qui est très connu dans la région. Comment ça se passe ?
Alors, il est jeune. Hein, il a reçu une transmission par une tante, me semble-t-il. Et il a l'intention de transmettre à sa descendance aussi. Et je crois que maintenant, il a tellement d'appels qu'il va quitter son travail alimentaire, si je puis dire, pour se consacrer exclusivement au reboutage.
Et il y a aussi des rebouteux qui agissent sur les brûlures.
Alors là, ce ne sont pas des rebouteux, ce sont des penseux de secrets. Hein, d'ailleurs, moi, j'ai reçu la prière de coupeur de feu. Mais le vrai penseux de secret qui a reçu un don par une personne plus âgée qu'elle. Moi, en l'occurrence, c'était pas quelqu'un de ma famille, mais c'était quelqu'un qui était plus âgé que moi, une femme, qui m'a dit « Écoutez, mes enfants, ça ne les intéresse pas, mais moi, je vois que vous êtes très intéressé par ça. Je vous sens capable de recevoir ce don. Je vais vous réciter la prière 3 fois. Vous ne l'écrivez pas. Si vous la retenez, c'est que c'est fait pour vous. »
Et alors ?
Des années plus tard, récemment, j'ai eu un coup de fil d'une amie infirmière qui m'a dit « Écoute, mon mari vient de se brûler atrocement avec de l'huile chaude de la friteuse. Si tu peux faire quelque chose ?» J'ai dit « Écoute, je sais pas. Alors j'ai arrêté le film que j'étais en train de voir. Je connaissais son mari, je connaissais son prénom. Je me suis... j'ai fermé les yeux, je me suis... imposer son visage et j'ai récité mentalement la prière et je sais pas, 10 minutes plus tard elle me téléphone, elle dit ça va, il a plus mal.
Mais vous étiez à distance, vous n'étiez pas dans la même salle.
Ah non.
Brigitte Lucas, comprenez quand même que c'est quand même hallucinant ce que vous racontez. On a du mal à le croire, pardon. Hein.
Angèle, qui est une dame qui est dans mon film, elle me disait...
94 ans.
Ouais, elle me disait, mais je sais pas comment ça se passe, elle regardait ses mains. Elle me disait, c'est peut-être du fluide, je sais pas ce qui se passe, c'est très mystérieux. Moi, ce qui m'intrigue beaucoup, c'est qui a écrit ces prières, d'où ça vient. Déjà, sous Charlemagne, il y avait des talismans écrits sur des parchemins. Les colporteurs, ensuite, ont distribué ces prières à travers les campagnes. Je pense que ce sont sûrement des curés du 18e, 19e qui ont écrit ces prières.
Brigitte Lucas, vous êtes venue avec un document exceptionnel, un cahier authentique avec des prières, et vous avez accepté de nous lire une prière. Alors c'est une prière pour quel type de mal ?
Alors c'est une prière contre les rages de dents. Alors,
inutile hein, parfois.
Oui, et on s'intéresse à Sainte Apolline pour les rages de dents. C'est elle qui soigne les rages de dents.
Alors, vous allez nous lire la prière ?
Sainte Apolline, assise sur la pierre de marbre, notre Seigneur vient à passer et lui dit « Que fais-tu, Sainte Apolline ? Je suis là de mon chef, pour mon sang et pour le mal de dent. » Jésus lui dit, « Souffle sur la dent, souffle trois fois sur ton mal, et le mal partira. »
Ça, si on récite cette prière à quelqu'un qui a une rage de dent, il sera soigné?
Écoutez, je ne l'ai pas testé celle-là, hein. Mais Jean-Louis Boncœur, qui était un conteur et aussi un peu sorcier, dans le sens où il s'intéressait beaucoup à ça, m'avait dit que lors d'un spectacle, le soir, il rentrait chez des amis et une rage de dents, tout d'un coup, lui l'empêche de dormir. Et comme il était chez des amis, il n'a pas voulu les réveiller pour demander de l'aspirine. Il s'est dit, mais ma foi, tu connais bien... la prière de Sainte Apolline, ben, fais-le. Et il s'est auto-soigné. Et il m'a dit que ça lui avait permis d'attendre 15 jours son rendez-vous chez le dentiste.
Vous l'évoquiez, il y a aussi les sourciers. Dans votre documentaire, vous suivez Henri Vanigen. À l'aide d'un bout de bois et d'un pendule, il est capable de repérer des sources d'eau cachées à des dizaines de mètres sous terre. On le voit, il a un bâton, une espèce de branche avec un pic, et qui est levé vers le ciel, et il marche, et d'un coup, le bâton se retourne vers le bas, la pointe de la branche pointe vers le bas, et dit, là, il y a de l'eau.
Alors, je veux pas vous contrarier, mais c'est pas un bout de bois, hein. C'est quand même une fourche. Peut-être pour ça qu'on associe sourcier et sorcier, d'ailleurs. C'est une fourche de coudrier, mais ça peut se faire aussi avec des baleines en plastique, de corset. Et il se trouve que là où il y a de l'eau, la fourche mais vous entraîne avec une force incroyable vers le bas.
Brigitte Lucas, en tant que spécialiste des rituels anciens et mystérieux, vous tenez régulièrement des conférences dans la région et vous en profitez pour savoir qui dans la salle possède le don de guérison. Vous leur demandez de lever la main et quel est le résultat ?
Alors, je commence par lever la mienne, histoire de mettre le public en confiance. Et souvent, effectivement, je me rends compte que parmi le public, tous, beaucoup de familles en Berry, dans l'Indre en tout cas, ont reçu un don.
Et souvent, quand on est sceptique, on se dit c'est des gens qui font ça, c'est des charlatans pour gagner de l'argent. Comment ça se passe lorsque on va voir un guérisseur, un rebouteux, et qu'on se fait soigner? Quel type de relation on a avec cette personne-là?
Alors, Angèle ne se faisait pas payer.
La guérisseuse que vous rencontrez dans le documentaire?
Que je rencontre dans le documentaire. Elle me disait, oh, vous me donnez ce que vous voulez.
5 euros, hein, c'est pas des sommes...
Alors, en général, on lui offrait des géraniums. Elle avait un jardin, mais alors, plein de fleurs. Ou alors, on lui offrait un gâteau, parce qu'elle aimait bien les petits biscuits, etc. Et alors, la chose la plus extraordinaire, c'est que cette femme a écrit des cahiers de prières pour ses filles, pour ses filles, oui. Et pour que ça soit plus sacralisé, elle a demandé au curé du village de bénir ses livres de prière. Et il se trouve que parmi ses filles, elle en avait une qui est infirmière ou aide-soignante très exactement dans un hôpital de la ville de Châteauroux. Et le hasard a fait que j'ai dû être opérée dans le service où cette aide-soignante s'occupait de moi, mais je ne savais pas que c'était la fille d'Angèle.
Et comment ça s'est passé alors?
Elle venait vers 6h du matin, elle avait une crème dans sa blouse et elle me massait, mais moi comme tous ses patients. Hein. Et j'attendais ce moment, mais alors vraiment avec impatience, parce que je trouvais que dès qu'elle me touchait, j'étais soulagée, vraiment. Et je lui ai dit, vous avez des mains extraordinaires. Elle me dit, je vous dis au revoir parce que c'est mon dernier jour de garde. Je sais que vous partez demain, je vous dis au revoir. Et puis, elle frappe à la porte, elle revient, elle me dit, mais vous êtes Madame Lucas? Je dis oui. Elle me dit, c'est vous qui avez écrit un livre sur ma grand-mère Angèle? Ben, je dis oui. Et on a eu toutes les deux presque les larmes aux yeux, parce qu'Angèle était décédée entre-temps. Et je lui dis, mais vous avez ses prières? Elle me dit oui, mais je les utilise pas parce que dans le milieu médical, je crains d'être mal vue. Et j'ai dit, écoutez, vous n'avez pas besoin d'utiliser les prières. Je pense que vous avez le don dans vos mains, ça suffit.
Il faut se cacher un petit peu lorsqu'on a ce don-là.
Oui, bien que ça change beaucoup. Moi, j'ai remarqué dans les hôpitaux à Limoges ou à Tours qu'il y a maintenant dans les salles d'attente le nom de coupeuse de feu pour empêcher les femmes ou les hommes qui suivent de la radiothérapie pour un cancer d'avoir des brûlures.
Donc la science commence à reconnaître cette médecine populaire et empirique.
Un médecin qui nous envoie quand même pour un zonage chez la penseuse. Là, pour la radiothérapie, on vous propose d'aller voir quelqu'un qui va éviter que vous ayez la peau brûlée par la radiothérapie. Il y a quand même des petits bruissements positifs envers cette médecine qui aide.
Brigitte Lucas, pour votre travail d'ethnologue, j'imagine que vous vous déplacez souvent en voiture dans la région.
Ah oui.
Vous empruntez l'autoroute A20 ou pas?
Oui.
Ah ben vous connaissez forcément cette institution, l'Escale.
Bien sûr.
Le plus grand restaurant routier de France, traditionnellement ouvert en permanence, les camionneurs peuvent désormais s'y arrêter de 5h du matin à minuit, Covid oblige. Visite guidée avec Dominique Thomas, le patron de l'Escale depuis 15 ans.
France Inter. Rendez-vous place du marché.
Alors on est dans la partie ancestrale de l'Escale là.
Au tout début, il y avait combien de couverts?
40 couverts, 50 couverts.
Et aujourd'hui?
Ah ben là maintenant l'Escale c'est 600 couverts.
Ici l'Escale c'est le rendez-vous des routiers. Vous avez aménagé des lieux pour eux, comme les douches. Est-ce qu'on peut les voir ou on peut...
Bien sûr, bien sûr. Vous allez voir, c'est assez spacieux. Ça a été refait il y a 3 ou 4 ans, je crois.
Ce sont des douches italiennes.
Ce sont des douches italiennes, oui. Et surtout, il y a une douche femme aussi qui est bien distincte, qui est beaucoup plus sécurisante quoi, pour elle.
Parce qu'il y a beaucoup de routières.
Il y a moins en moins d'hommes qui veulent être chauffeurs, c'est peut-être aussi ça. Ils arrivent à prendre des places.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes routier?
Oui.
Vous venez ici depuis longtemps?
1986.
Et pourquoi vous venez là depuis 35 ans? Parce qu'il y en a plein d'autres, des restaurants.
Ouais, non, mais celui-là, c'est une légende. On mange bien. Tout est prévu pour les routiers.
Comme quoi?
Les journaux, les douches. Avant, ça fermait pas la nuit. C'était ouvert tout le temps. On pouvait déjeuner, on pouvait manger à toute heure. Enfin, chose qu'on peut faire encore sur un temps plus réduit.
Mais à cause du Covid?
Eh oui, tout à fait. Il n'y a que lui. Il n'y a qu'ici. C'est connu, c'est réputé. Il est réputé.
Même en dehors de France?
En dehors de France aussi. Beaucoup d'Anglais, de Belges, Allemands qui viennent ici. Il n'y a que l'Escale qui est comme ça.
Bon appétit, puis bonne route après.
Merci. Bon courage à vous.
On va aller voir notre responsable de restaurant, chef en cuisine, M. Martin, qui est récemment arrivé chez nous. Tiens, M. Martin.
Bonjour.
Bonjour.
Quelle est sa singularité par rapport aux autres brasseries?
Ah bah c'est son aspect triptyque hein. Donc vous avez une salle, donc une carte de restaurant pour les routiers, une carte de brasserie plus traditionnelle hein. Et puis vous avez un véritable restaurant semi-gastro où vous pouvez manger donc à la carte, au menu, des produits qui sont tout fait maison. Donc on fait nos propres pâtisseries, on fait nos foie gras, nos propres, on fait beaucoup de fruits de mer. C'est une maison qui est une institution pour dans la région en tout cas pour tout ce qui est fruits de mer, coquillages, plateaux royaux avec des homards, des langoustines.
Attends, on est loin de la mer quand même.
Mais oui, mais bon, voilà, ça fait très longtemps que c'est installé comme ça. On a aussi évidemment le hamburger maison qui est donc une marque de fabrique de Châteauroux, puisque c'est à Châteauroux que le premier hamburger a été mangé.
Ah bon?
Ah ben oui, bien sûr.
Comment ça se fait que le premier hamburger a été mangé ici à Châteauroux?
Ben parce qu'il y avait une base américaine ici. Évidemment, la culture américaine s'est invitée à Châteauroux.
En tout cas, là, ça bosse dur, là. Hein.
Ah oui, ça bosse très dur. À préparer un entrecôte béarnaise saignant, frites, haricots verts.
Oui.
À suivre, deux faux filets poivre, c'est deux saignants.
Oui.
Un oignon, porc routier, une pâte. Un poisson.
Le jour se lève comme un rêve à peine.
Meira Andrade avec Le Jour se lève, un titre sorti en 2014. Vous écoutez France Inter, rendez-vous place du marché est à Argenton-sur-Creuse dans l'Indre. On est devant la halle du marché à la terrasse du Carnot, toujours avec Brigitte Lucas, ethnologue et amoureuse de sa région. Deux nouveaux invités nous ont rejoints, eux aussi passionnés par leur Berry, Maurice Garnier et Guillaume Chausmy, bonjour.
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 Maurice Garnier, vous êtes traiteur, caviste à Argenton. Vous tenez le Coquino Ergo Sum. Ça veut dire quoi, ça, d'ailleurs?
Je cuisine, donc je suis. Donc ça permet d'affirmer que il n'y a pas que les intellectuels qui ont le droit d'exister, quoi.
Et vous préparez vos propres tagliatelles. On a pu les déguster avec Irène Menahem et on s'est bien régalé. Elles sont délicieuses. Et ce matin, vous tenez un stand au marché. Merci de l'avoir délaissé quelques instants pour être avec nous. Guillaume Chausmy, vous êtes le maire depuis un an du Pont Chrétien Chabenais, une commune voisine de 920 habitants. On vous a invité tous les deux car vous êtes très fiers de votre région et vous êtes ardemment battus pour maintenir le trafic ferroviaire à Argenton. Maurice Garnier, on a visité votre boutique hier soir et dès qu'on pousse la porte de votre boutique, la première chose qu'on voit, c'est un grand drapeau berrichon. Pourquoi êtes-vous si fier d'être berrichon, Maurice?
Pourquoi? Il n'y a que les Bretons qui devraient être fiers d'être Bretons, les Basques qui devraient être fiers d'être Basques, et le berrichon, il devrait être dans le cul dans le fossé, dans les ronces, et avoir honte de lui? Ben non, on est fiers d'être berrichon. En plus, ça rime avec tête de cochon, et on est capable. On est capable.
Mais vous n'êtes pas une tête de cochon, vous n'êtes pas une tête de lard.
Ah non, je mets de l'art un peu partout, mais aussi dans la tête de cochon, je suis capable.
Guillaume Chausmy, vous n'avez que 42 ans et vous êtes donc le maire du village où vous avez grandi, seulement depuis un an. Le Berry, ça représente quoi pour vous?
C'est clair que quand on se bat pour la défense de la maternité du Blanc, pour conserver des arrêts dans la gare d'Argenton, pour le maintien des services publics dans notre ruralité, eh bien on essaye de désenclaver ce territoire et de faire en sorte que sa fierté soit là, toujours là, et qu'on puisse y vivre paisiblement, mais qu'on soit heureux d'y être.
Brigitte Lucas.
Notre problème, c'est qu'on est au centre de la France, mais on n'est pas le centre du monde, hélas.
Maurice Garnier, qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire Brigitte Lucas sur cet emplacement particulier du Berry sur la carte de France?
C'est comme toujours le centre. Vous savez, la France, c'est le Berry avec des provinces autour. C'est pas moi qui l'ai dit. Et donc, si vous voulez, quand vous prenez la petite carte de France en plastique qu'on a à l'école, vous identifiez parfaitement la Bretagne. Vous identifiez parfaitement l'Alsace, le Nord-Pas-de-Calais, le Pays Basque. Mais là, au milieu, où est le centre? Pour les étrangers, les Américains qui connaissent pas beaucoup la géographie, pour eux, le centre, c'est Paris, hein, alors que Paris, c'est le nord de la France. Donc le centre, c'est toujours difficile à définir, effectivement, ici.
Ça implique quoi pour vous, Guillaume Chausmy, ce positionnement un peu flou sur la carte?
C'est surtout que notre territoire, c'est un lieu de passage. Voilà, il y a ce passage entre Paris vers Toulouse, vers Limoges, Argenton-sur-Creuse, le Berry, c'est des endroits où on vient s'arrêter quand on vient de Paris, quand on va vers le sud de la France ou qu'on va du sud de la France vers Paris. Après, le positionnement central du Berry, c'est autant le territoire oublié, mais c'est aussi le territoire caché.
Le Berry, c'est donc une zone géographique un peu floue. Ça a une conséquence concrète et brutale, c'est l'abandon du service public, notamment en matière de transport. Tous les deux, Maurice et Guillaume, vous êtes battus contre la SNCF à travers le collectif de défense de la gare d'Argenton. Quel était le problème, Guillaume Chausmy?
Le problème, c'est que en juillet 2017, nous avons perdu beaucoup d'arrêts et beaucoup de départs de Paris qui s'arrêtaient directement à la gare d'Argenton.
En gros, vous avez perdu combien de dessertes, combien de passages de train ici?
On a perdu environ la moitié des arrêts intercités dans notre gare d'Argenton. Pendant quelques temps, on a, essayé de lutter de manière institutionnelle, faisant des courriers aux mairies, aux préfets, à toutes ces personnes. C'était devenu impossible. On voyait bien qu'on n'arriverait pas à avancer. Et Martine Yerzanski, un soir, m'appelle et me dit...
Qui est cette dame?
C'est la présidente du comité de défense de la gare d'Argenton. C'est l'initiatrice de tout ça. Faut être clair, elle n'est pas avec nous aujourd'hui, mais elle est avec nous dans les paroles et dans les pensées. Je vous dis, un jour, elle m'appelle, elle me dit, Guillaume, je pense qu'il faut qu'on fasse une pétition, quelque chose pour arriver à ce qu'on nous écoute, qu'on nous entende. Je dis, écoute, j'imprime deux feuilles avec des tableaux. Tu te mets à un endroit du marché, je me mets de l'autre côté du marché. Si on fait 50 signatures, on en parle à la presse, on fait quelque chose. Une heure après, on en avait 150. On avait déjà eu plein de gens qui nous avaient témoigné de leur sympathie, surtout de leur soutien. Et on a très vite décidé de créer ce collectif qu'on a appelé Comité de défense de la gare. Mais clairement, avec l'envie de récupérer les dessertes qu'on avait perdues, de faire en sorte que le service public ferroviaire soit maintenu dans la gare d'Argenton, que les arrêts en provenance de Paris et au départ d'Argenton vers Paris sans correspondance, ça c'est extrêmement important pour nos anciens en particulier, puissent être conservés. Et donc bon, bah, on a mis pratiquement 3 ans à tout récupérer, mais force de lutte, force d'arrêt de train avec tous les habitants, puisque je vous ai parlé de 150 signatures au premier jour, mais aujourd'hui on est à plus de 20 000 signatures sur la pétition.
Alors que sachant qu'à Argenton il n'y a que 5 000 habitants. Hein.
Voilà, on est sur un bassin de vie qui est d'environ 60 000 personnes pour la gare d'Argenton. Tout le monde est là pour soutenir le comité de défense et faire en sorte que l'Argenton soit désenclavé de manière ferroviaire.
Dont vous, Maurice Garnier, la SNCF a réussi à réveiller le Biaichon tête de cochon, comme vous le disiez tout à l'heure. Vous avez fait quoi comme action pour maintenir ces trains ?
Ah ben j'ai participé aussi au comité et le comité a décidé de bloquer des trains et donc régulièrement on a bloqué des trains. Quand vous avez tous les maires du canton, des communautés de communes, quand vous avez tous les élus, quand vous avez le rapport de force qui est là, ben on vous écoute.
Vous, Maurice Garnier, pourquoi vous êtes mobilisé pour cette cause ?
Écoutez, ça fait 50 ans qu'on désertifie le territoire en France. Ça fait pas 5 ans, ça fait 50 ans. Et c'est pas seulement le Berry qu'on désertifie. Il y avait 2 cliniques avant Argenton, il y a 50 ans. Il n'y a plus rien depuis longtemps. Et bon, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres exemples. Donc, ça suffit la langue de bois de dire « on fait de la décentralisation ». Mon cul, oui. Bon, vous allez le couper, ça. Bon,
on va le garder, on va le garder. Pourquoi je le couperais ?
Eh ben, bien sûr, c'est dans le dictionnaire. Il faut trouver un juste équilibre entre la rentabilité à tout craint et puis le fonds perdu à tout craint, quoi. Le quoi qu'il en coûte à tout craint.
Brigitte Lucas, vous êtes en colère lorsque vous voyez qu'il y a des mesures comme ça qui sont prises au détriment de la population berrichonne ?
Moi, ce qui me désole, c'est de voir que les femmes vont aller accoucher dans les champs ou en voiture, en catastrophe, parce qu'il n'y a plus de maternité. C'est vraiment dramatique. On a l'impression que tout est concentré sur les grandes métropoles, c'est vrai.
Parce qu'il y a 3 ans, il y a une maternité, celle de la commune du Blanc, qui a fermé et qui maintenant oblige certaines femmes berrichonnes de la région à aller plus loin. Elles vont où, d'ailleurs ? Elles vont...
Aujourd'hui, clairement pour la maternité, mais pas que, puisque là, en ce moment, ils sont en train de fermer le service de chirurgie. Cet hôpital du Blanc est démantelé morceau par morceau, mois par mois, et malheureusement, ça va terminer en coquille vide. C'est un drame pour le territoire du Blanc, mais c'est un drame. Moi, mes deux garçons sont nés à la maternité du Blanc. Ma femme y a été choyée. Les enfants sont très bien, ont été très bien, soignés à leur naissance. Des enfants qui auraient dû naître à la maternité du Blanc, leur mère va faire 1 heure pour aller ou à Châtellerault ou à Poitiers ou à Châteauroux pour accoucher. Voilà, c'est un risque, Madame Lucas vient de le dire, c'est un risque énorme. Combien de faits divers nous avons entendu de mamans qui ont accouché sur le bord de la route. On espère un sursaut de l'État. Il y a un moment où il faut arriver à sortir nos territoires ruraux de cette désertification des services publics. Nous ne sommes pas des demi-urbains. Je pense que c'est une grave erreur de laisser notre territoire et les ruraux à l'abandon. Et eux aussi, ils finissent par croire que l'État ne s'occupe plus d'eux et qu'ils ne sont plus des Français. Hein, il y a écrit liberté, égalité, fraternité sur les frontons toutes numériques. Il faut absolument que l'État décide d'appliquer cette maxime à tout le monde.
Finalement, votre mobilisation, elle a donné quoi au bout du compte ?
Bah pour finir, on a récupéré des arrêts, quoi. C'est quand même une grande victoire avec toute cette mobilisation grâce à la pertinence de la revendication.
Guillaume Chausmy, vous êtes donc maire depuis 1 an de votre commune de 920 habitants. Comment on fait pour redynamiser, pour valoriser, donner de l'attrait à votre commune et à votre région qui est visiblement en passe d'être un peu abandonnée, quoi, par l'État ?
le potentiel de notre territoire est clair. C'est tourisme et culture. C'est les deux grandes choses que l'on peut mettre en avant. Et forcément, il faut qu'on puisse y accéder. Voilà. Donc, faut qu'on puisse y venir. Alors, on a énormément de choses. Même Lucas a évoqué Georges Sand. On a la Vallée des Peintres. On a un potentiel et un poumon culturel ici. Je ne connais pas une personne qui vient chez nous et qui s'y ennuie plus d'une heure. Il n'y a pas possible. Il trouve tout de suite quelque chose.
Brigitte Lucas, c'est vrai qu'on s'ennuie pas chez vous, dans le Berry?
Parce que il y a Gargilès, qui était la résidence secondaire de Georges Sand, et il y a un saint très facétieux qui s'appelle Saint Greluchon, et j'ai oublié de vous en parler de celui-là. Saint Greluchon vient le voir pour avoir des enfants, et on lui touche le zizi à Saint Greluchon. Le seul ennui, c'est que on a volé la statue il y a un mois.
Ah bon? Oui. Qui l'a volé?
Ah ben si je le savais, je ne vous le dirais pas parce que je peux pas. Mais on ne sait pas. Donc est-ce que c'est une femme en mal d'enfant? Est-ce que c'est du vandalisme? On a coupé le granit, il reste plus que les pieds de Saint Greluchon. Donc il peut plus prendre son pied, le pauvre homme.
Pas de chance pour lui. Merci à tous les trois, restez avec nous. Après une courte pause musicale, on va vous parler d'une histoire d'amitié incroyable entre un grand pâtissier et son apprenti sans papier.
C'était Jacques avec son morceau « Vous ».
Malgré notre histoire, malgré tout ce que j'ai pu croire, je suis content de faire partie de nous.
France Inter. Rendez-vous Place du Marché. Antoine Mie.
On est à Argenton-sur-Creuse, dans le Berry, toujours face à la halle, à la terrasse du café Le Carnot. C'est l'heure de l'apéro, on va découvrir une spécialité culinaire ancestrale ici, à Argenton-sur-Creuse. Une douceur que vous nous avez apportée, Christiane et Thierry Bernard, bonjour.
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 cette douceur, c'est le Vladimir. De quoi s'agit-il ?
C'est un gâteau qui est né sous l'entente franco-russe, d'où son nom Vladimir, parce que, paraîtrait-il, que pendant cette entente franco-russe serait venue une partie de la famille impériale dont faisait partie le grand-duc, Vladimir, invité par la duchesse d'Uzès, qui avait ses appartements à Rivarennes, non loin d'ici.
Thierry Bernard, est-ce que vous pouvez nous décrire ce gâteau ? Alors là, au-dessus, il y a du sucre glace, on dirait les steppes de Sibérie et de Russie.
Vous avez tout découvert, vous avez tout dit, tout est là. Tout est là, ça ressemble à la Russie, d'où l'intérêt du sucre glace sur le dessus. C'est un gâteau composé de 3 feuilles de biscuits aux amandes, très moelleux, avec une crème pralinée à l'intérieur.
On va dire à nos invités Guillaume Chosmy et Brigitte Lucas de goûter ce gâteau. On va vous demander ce que vous en pensez. Allez-y, goûtez-le. C'est comment alors, cette pâtisserie ?
C'est un goût traditionnel de notre commune et de notre canton. Vraiment, je vous invite tous à passer au Vladimir, en prendre une part.
Grâce à vous, je viens de goûter le Vladimir et je pense que je vais revenir en prendre régulièrement.
Ah bah, je suis ravi de vous avoir fait découvrir cette merveille. Thierry Bernard, on vous a invité pour nous parler de ce fameux gâteau, mais aussi et surtout pour nous raconter cette rencontre avec votre jeune apprenti. Pouvez-vous nous le présenter ? Il est juste à votre droite.
Alors Yacouba Doucouré, c'est un petit gars qui nous arrive du Mali. Il est arrivé en France, voilà 6 ans. Il a été accueilli en famille d'accueil et ensuite il a décidé, lui, de faire un apprentissage de pâtisserie.
Bonjour Yacouba.
Bonjour.
Vous, quelle est votre histoire ? Vous venez du Mali, Thierry nous l'a dit. Pourquoi vous êtes parti de votre pays ?
Je suis parti de chez moi parce que mes parents, ils n'avaient pas de moyens. Ils avaient envie de venir en France, faire des études, faire des formations.
Ils font quoi vos parents au Mali ?
Ils cultivent.
Et avant de venir en France, vous étiez dans les champs avec eux ?
Oui, j'étais dans les champs avec eux, oui.
Et vous décidez de partir, de quitter votre pays. Vous avez quel âge à ce moment-là ? Vous avez 15 ans ?
Oui, j'avais 15 ans.
Dans quelles conditions vous quittez votre pays ?
D'abord, on est parti par l'Algérie. Et ensuite, on est arrivé à Libye. Ensuite, on a pris les bus, on est parti à Gadames. On est resté là-bas au moins une semaine.
Quand vous dites « on », vous étiez avec d'autres enfants ?
Oh, on était avec d'autres enfants, oui. Il y en a qui sont plus âgés que nous, mais il y en a qui ont 15 ans. Et après, on est parti à Libye. Ouais.
Une fois en Libye, qu'est-ce que vous avez fait ?
On nous amène au bord de la mer.
Oui.
On nous amène là-bas. Après, le soir, vers 3h du mat, et on prend les bateaux gonflables, on pousse dans l'eau et tout le monde monte.
Ah ouais ? Et tout le monde, c'était combien de personnes ?
À peu près 70 dans le bateau. Ouais.
Et le bateau, il était grand pour 70 personnes ?
C'est pas trop large, hein, mais... On arrive à s'asseoir quand même.
Mais c'était la nuit, il faisait froid.
Il faisait froid, ouais.
Donc c'était extrêmement dangereux.
Ouais, c'était dangereux. Ouais.
Vous dites quoi quand vous montez dans ce bateau ?
Bah, soit on arrive en vivant, soit on meurt. Hein.
Vous avez pensé à ça ?
Bah, on a pensé, ouais.
Et vous montez quand même dans le bateau ?
Ah, on montait quand même, ouais.
Thierry Bernard, c'est une histoire incroyable, de Yacouba.
Oui, c'est une histoire incroyable. Moi, je suis comme tout le monde, je l'ai vu à la télévision, hein, cette histoire. Bon. Et puis un jour, ce petit gars, il s'est présenté à côté de moi. Écoutez, j'ai dit, écoute, pourquoi pas ? On va lui donner sa chance. Il a autant de chance qu'un autre.
Ce que vous avez vu à la télé, vous le voyez pour de vrai, oui, arriver chez vous dans votre boulangerie ?
Je ne réalise pas véritablement, parce que bon. Après, il faut. Voilà. Quand vous lui parlez, les yeux dans les yeux, qu'il vous explique. C'est clair, hein. Il n'y a pas de faux fuyants, il n'y a pas de mensonges. Vous savez très bien par où il est passé à l'âge de 15 ans. J'ai des enfants, j'aurais pas voulu qu'ils vivent ça, quoi.
Quand vous voyez Yacouba arriver dans votre boulangerie, vous pensez à vos enfants, vous ?
Ah oui. Ah oui, moi je pense à mes enfants direct. Et après, le professionnalisme reprend le dessus, il cherche une place. Je lui dis, écoute, on va essayer. Et là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? 2 jours après, c'était acquis, quoi. Voilà. Il avait tellement envie. Il a tellement envie d'apprendre quelque chose, envie de pratiquer la pâtisserie, envie d'être avec nous, envie de s'en sortir. Voilà, on avance.
Se construire une vie, une nouvelle vie, une vie de vivant, tout simplement.
On vous sent émus tous les deux lorsque vous parlez de Yacouba.
Ah non, mais c'est... Ouais, mais c'est pas rien ce qui s'est passé.
C'est quoi pour vous, ça représente de quoi la rencontre avec Yacouba ?
Bah, écoutez, laissez-moi un petit peu, parce que j'ai des choses à dire, mais bon, ouais. Je suis en colère en fait.
Qu'est-ce qui vous met en colère, puisque vous avez réussi à aider Yacouba ?
C'est tellement peu. On fait tellement peu. Je suis en colère contre tout un système en fait. C'est pas possible, quoi. On peut pas laisser les gamins faire ça, quoi. C'est, Vous vous rendez compte la désespérance de parents qui disent à leur enfant à 13, 14, 15 ans, tu t'en vas, on va payer je ne sais combien de milliers d'euros pour que tu partes à 5000 km de chez toi. Peut-être que tu t'en sortiras, mais peut-être que tu t'en sortiras pas. Demain, tu seras peut-être à la rue, tu vas peut-être crever sur un trottoir, quoi. Moi, c'est pas possible, quoi. Vous savez, moi, je suis un fils d'ouvrier, berrichon. Ça m'est tombé dessus. Moi, du fin fond de mon Berry rural, j'ai dit, il faut faire quelque chose. Je me dois de faire quelque chose. Et ça passe par la transmission, par l'apprentissage, par le travail. Moi, c'est ça que je peux donner. Moi, je peux pas donner d'argent, je peux pas donner. J'ai rien de tout ça. Moi, le peu que j'ai, c'est le travail qui me l'a amené. Donc, j'ai dit, lui, s'il est OK, on y va. On fonce. Et il a été OK. Il est là depuis 5 ans, vous voyez. Excusez-moi, je suis un peu ému, mais je suis un peu.
Ne vous excusez pas.
Non, mais franchement, ça me submerge, pardon. Et puis, c'est des mots que j'ai envie de sortir depuis tellement longtemps. Je suis content que vous m'ayez tendu le micro. Je suis content que vous soyez venu nous voir à Argenton. Et il faut savoir que ça existe partout dans notre pays et partout dans plein d'autres pays, quoi. Des mômes qui risquent leur vie pour essayer de survivre.
Tout le plaisir est pour nous, sachez-le. Christiane, vous avez tout de suite adhéré à l'engagement de votre mari.
Alors, de toute façon, je vais presque dire que c'est... On ne se pose pas la question dans ces moments-là. Yacouba, il est arrivé avec deux de ses copains. Puis le hasard a fait qu'il y avait une place vacante pour préparer le CAP pâtissier.
C'est le destin. Hein.
Il a fait une semaine d'essai comme on fait avec tous les jeunes qui veulent rentrer à la maison du Vladimir. Aujourd'hui, il a son CAP pâtissier, il a son CAP chocolatier. On souhaite ardemment qu'il ait son BTM, brevet technique des métiers.
Brevet très difficile à avoir et c'est rare de le passer aussi vite.
Tout à fait. Et il a son permis de conduire. Donc, sa venue en France n'est pas anodine.
Yacouba Doucouré, lorsque vous arrivez en 2015, vous obtenez le statut de mineur isolé étranger. Mais vous connaissiez un petit peu la pâtisserie avant de rencontrer Christiane et Thierry Bernard ?
Non, à cette époque, je ne connaissais pas du tout de la pâtisserie. Non.
Et comment ça s'est passé alors ? Comment s'est révélé les talents de pâtissier de Yacouba ?
Dès qu'on a commencé à pratiquer un petit peu, je lui ai montré des petites choses, j'ai vu qu'il avait beaucoup d'aptitudes à emmagasiner, à écouter, à dupliquer ce que je lui faisais voir. Et ça, il a conservé ça. Vous savez, le travail lui sort des mains, quoi.
Yacouba Doucouré, il paraît que Thierry devait vous freiner. Parce que vous le disiez, travailler plus qu'il ne fallait au niveau des horaires. Je crois que la journée commençait à 6h et vous arriviez à quelle heure au travail ?
5h.
Une heure avant, mais pourquoi faire ?
Non, mais ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est que il m'a fait une réflexion. Alors, je lui ai dit, écoute, on commence le contrat d'apprentissage et tout, ceci, cela. Alors, les horaires, c'est 6h, 13h, une coupure dans la matinée. Et tu reviens le lendemain, 6h, 13h. Première réflexion, de but en blanc, mais je fais quoi cet après-midi, moi ? Voilà. Vous voyez, le môme, il est venu pour travailler, quoi. Il n'est pas venu là pour enfiler des perles. Hein. Mais là, je lui dis, non, écoute, mon garçon, il faut que tu profites de ton après-midi, tu vas prendre le soleil, tu vas voir les copains. En France, c'est comme ça. C'est 7 heures par jour et pas plus. Pour les apprentis.
Mais vous vouliez faire plus.
Ah oui, il avait faire plus, ouais.
Pourquoi vous vouliez faire plus ?
En fait, je voulais apprendre plus, encore plus, quoi. Et du coup, il fallait que je vienne une heure avant. Et du coup, comme ça, je pourrais apprendre encore plus.
Hein, on pouvait plus se débarrasser de toi. Hein.
Bon, on sent que vous n'avez pas tellement envie de vous en débarrasser.
Non, pas vraiment.
Bon, Yacouba Doucouré, on vous souhaite le meilleur. Et qui sait, peut-être un jour, à la place du patron et de la patronne, Thierry et Christiane Bernard.
Et il va falloir y penser parce que nous, on a fait notre temps quand même. Hein.
Et ça vous plairait qu'ils reprennent votre succession ?
Alors là, ce serait un plaisir infini. Hein. Bon, il lui faut quelques années d'expérience encore. Hein. Il n'a que 5 ans derrière lui. Encore une petite dizaine d'années et puis... Ce sera peut-être possible, allez savoir.
Brigitte Lucas.
Ça serait génial qu'après Vladimir, il y ait un gâteau qui s'appelle Yacouba.
Ah mais vous avez des bonnes idées, Brigitte.
N'est-ce pas ? Yacouba d'Argenton.
Non, mais ce que vous savez pas, Brigitte Lucas, c'est qu'il a déjà créé son propre gâteau qui s'appelle Bamada. Ah. Bamada, c'est le surnom de Bamako. Hein. C'est comme ça, Yacouba.
Ouais, c'est surnom de
Bamako. Explique ce que c'est, le gâteau.
C'est quoi votre gâteau ?
Allez, du coup, mon gâteau, c'est... un biscuit chocolat et une mousse caramel chocolatée. Et à l'intérieur, on a une coulis mangue passion. Et la mangue, ça vient de chez moi, du coup, c'est mis la mangue. Et la passion, c'est pour apporter un peu d'acidité.
Bon, en tout cas, on vous souhaite le meilleur.
Merci beaucoup.
Allez, on termine en musique avec les vieilles sacoches. Bonjour.
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 Alors, qui est qui et qui fait quoi ?
Alors, moi, je suis Jean-Yves et je suis bassiste. Voilà, bah, moi c'est Michel, je fais ce que je peux. Non, mais batterie, caronne, voilà.
Et moi c'est Fabrice, à l'accordéon. Et au chant. Et au chant également.
Vous êtes trois, d'habitude vous êtes six. Vous êtes tous originaires de la région, Michel ?
Oui, oui, on est tous de Châteauroux, Buzancer, enfin la région, quoi, la région centre. Voilà.
Et pourquoi les vieilles sacoches ?
Alors ça, les vieilles sacoches, en fait, dans notre région, c'était les gens qui buvaient un canon, qui aimaient bien boire un coup.
Et on les appelait les sacoches, les vieilles sacoches ?
Exactement, voilà. Donc c'était la rencontre, c'est parti de cet esprit-là.
Pourquoi vous avez plutôt tendance à avoir le coude qui se lève facilement ?
On aime bien ce qui est convivial. Voilà.
Alors vous avez accepté de nous interpréter l'une de vos compositions, Les 100 canons. De quoi ça parle ?
On devine un peu, Michel, de quoi ça va parler ?
En gros, ça va parler de se retrouver ensemble, de profiter de la vie et voilà.
Eh bien, vous avez bien raison, on vous écoute.
Je sors mon chien, je suis passé dans plein d'endroits. Je ne me rappelle plus de rien à chaque fois. C'est toujours comme je ne suis pas un alcoolo. Moi je fais bosser les petits bistrots, les services de proximité, je les ai toujours fait travailler. Le lendemain je le ressens, j'ai un cimetière entre les dents. Dans mes boyaux c'est la bataille entre les olives et le revêt à la place du roi. Il faut pas passer derrière moi, c'est infernal ce que ça peut faire. Comment ça pue sous mon derrière. Dans nos sacoches on met du vin fait avec du raisin. Du coup le lendemain je vais bien, et ça recommence tous les matins. Pas si j'ai trop bu, mais demande donc à mon voisin s'il est toujours aussi moi quand j'ai la gueule en cul. Ne demande pas si j'ai trop bu, mais demande donc à mon voisin s'il est toujours aussi serein. Dans nos sacoches on met du vin fait avec du raisin. Du coup le lendemain je vais bien, et je recommence tous les matins.
Ça applaudit là, ça applaudit. Roger, ça vous a plu, hein ?
Ah oui, formidable, puis très entraînant.
Christiane Bernard, ça vous a plu ?
C'est extra. Moi, je trouve ça génial. C'est terroir, c'est entraînant, c'est vivant.
Les vieilles sacoches, vous avez sorti deux albums et vous allez prochainement vous produire dans les environs. Le 4 septembre prochain à Châteauroux et le 11 septembre, ici, vous revenez à Argenton-en-Creuse. Merci à vous les vieilles sacoches, merci à Florence du Café Le Carnot, merci à Anne Cohuette et Toine Cuyenne pour leur aide. Cette émission a été réalisée par Théo Raison. Elle a été préparée par Irène Menaem avec l'aide de Julia Martin. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur le site de France Inter. Demain, vous retrouvez Aurélie Sfèze à Montalivet en Gironde.